Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Ah bah j'y vais.
Orage au désespoir.
Salut Alex.
Oh bonjour les amis, oh n'ai-je donc tant vécu,
ouais. Ça va, qu'est-ce que tu fais?
Je révise mes classiques, on reçoit un grand auteur et metteur en scène de théâtre.
Et tu penses que peut-être tu serais la personne idoine pour jouer dans ces pièces?
J'ai pas cette envie, non.
Oh dis donc, il est modeste, hein.
Je vise à devenir son comédien fétiche.
Ah,
oula.
Ça, oui. Surtout que là, il vient nous présenter sa dernière pièce. Super. Un monologue paru aux éditions théâtrales.
C'est pour moi, c'est pour moi.
Oh, oui. Alors ça s'appelle A Love Supreme.
Ah, le titre est beau, hein.
Vraiment, moi j'adore son travail, cette pièce doit être sublime.
Ah, le titre fait référence à Coltrane.
Ah merde, Alex, c'est de la musique, c'est pas ton domaine, ça.
Ouais, ça se passe dans un peep show à Pigalle.
Ah, là, c'est plus ton domaine, par
Génial,
contre.
Mais je pourrais la jouer, du coup, peut-être.
Ouais, mais t'as vu, c'est le personnage principal se met à nu quand même.
Ah ouais, c'est gênant.
Ça ça me dérange pas.
Ouais,
du tout.
C'est gênant pour le public de te voir.
En même temps,
nu,
c'est vrai que le texte est vraiment très beau, hein.
Oui.
Et écoute ça, là. Ils veulent que j'arrête. Ils veulent que j'arrête. C'est venu comme ça, sans prévenir, sans le moindre signe, même pas une réflexion avant pour que je me prépare à ça.
Il y a une urgence, hein. C'est magnifique. Ouais, hein.
Ils veulent que j'arrête. C'est venu comme ça.
Très fort, c'est très fort, Alex. Non, c'est bien, hein. Si Alex, ça, il te prend pas, je comprends pas.
Alors après, peut-être que le personnage est un peu âgé pour toi.
Oui, je peux me vieillir, il n'y a pas de problème.
Ah, j'avais oublié un détail aussi, Alex. C'est que, il s'agit d'une femme.
Ah oui, c'est une femme.
En 2019, moi j'ai une grande part de féminité.
Non.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la Start-up Émission, cet espace où le discours de l'actualité marque l'acte 2 de la blague. Le New York Times expurge la caricature de ses pages dans l'édition internationale. Dans sa version américaine, il n'y en avait déjà plus depuis longtemps. Après un dessin polémique, le journal s'est-il aplati devant les réseaux sociaux?
Ouais, j'ai testé la presse.
Oui.
Elle est pourrie.
Oui, mais ça c'est pas nouveau, c'était pas la peine de faire un test conforme, c'est depuis longtemps.
Les subventions à la culture privilégieraient ceux qui en ont le moins besoin. Les populations aisées des centres-villes et surtout à Paris, au détriment des communes en région où l'offre culturelle est forcément moins, moins étoffée, par exemple.
J'ai ma petite nièce qui fait des guirlandes en crépons orange et vert. Vous pouvez mettre ça sur une table ou alors autour d'une chaise avec des bouts de scotch, ça peut faire un truc joli.
Est-ce que Pigalle est en train de se faire endormir par la gentrification avec des magasins bio à la place des pipe shows? Et le jour où Pigalle sera carchérisé, quelle reconversion pour les travailleuses du quartier?
Tu es quand même venu de ton propre gré. Donc tu arrives ici, tu fais ta mijaurée. C'est très bien, mon reste là, donc c'est terminé. Ça va très vite, hein. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein.
Et voici celui que le sujet intéresse énormément. Bonjour Alex Vizorek.
Faut s'intéresser à tout dans la vie. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et bien autour de la table, une belle équipe à 17h20. Celle qui fait mieux l'accent africain qu'Éric Blanc, que Michel Lem et même que Manu Dibango. C'est vous, Rukia Tawedarogo. Bonjour.
Bonjour Alex.
Comment allez-vous?
Très bien.
Et bien de quoi on va parler?
On va parler d'enfants aujourd'hui.
Très bien, ma grande spécialité et passion. À 17h30, ce grand défenseur des animaux n'aura sans doute jamais de voiture car il a trop peur que les chevaux souffrent en étant enfermés à autant dans un moteur.
C'est
vous, Guillaume Meurice.
Oui, ben, je vais vous parler d'enfants aujourd'hui.
Ah bah,
vous,
avec chance.
C'est votre fête, je suis allé à une animation pour les enfants organisée par Porsche. Et ouais, j'ai rencontré plein d'enfants de prolo.
Je suis déjà montée dans la voiture de papa, la GT2 RS.
GT2 RS, il y en a d'occasion à 500 000 balles, j'ai vérifié.
Très sympa, il y a 17h40, mais oui. Ah, mes lancements n'auront pas servi à rien depuis 5 ans. Je présente cette fille extrêmement saine comme la pochetronne de l'équipe et ça a payé. Elle sera la marraine d'un événement à la Bellevilloise le 23 juin, l'événement Women Do Wine, sorte de réunion de féministes alcooliques. C'est bien ça, Juliette Arnaud?
Oui, c'est ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est des femmes qui font du vin, qui le célèbrent, qui en font la vente aussi. Et c'est que des femmes. Women do wine.
Très.
Les femmes font du vin. Et c'est moi la présidente.
Bravo.
Et de quoi vous allez nous parler aujourd'hui?
D'une femme qui, puisqu'elle est morte à 29 ans, était quasiment un enfant. C'est pour rester dans le thème général.
Ouais, c'est bon.
Et voici celui qui va encanailler cet open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Xavier Duringer.
Oui, bien sûr. Carrément.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Carrément, on reçoit Xavier Duringer.
Bon, voilà.
Ah, bien sûr. Bienvenue Xavier Duringer. Le grand public vous connaît pour La Conquête avec Denis Podalydès dans le rôle de Sarkozy. Vous êtes homme de théâtre, cinéaste et romancier. Et vous publiez le texte d'une de vos pièces qui s'appelle A Love Supreme aux éditions théâtrales. Vous publiez ce texte alors que la pièce a déjà été jouée en 2018.
et que vous vous apprêtez à la rejouer en 2020. Notamment, vous passerez par Marseille. Il y aura aussi le Théâtre de Sceaux en mois de janvier 2020 et sans doute au Théâtre Marigny, parce que vous étiez programmé au Théâtre Marigny.
Oui, c'est Dominique Pitoisel, metteur en scène, mm-hmm. avec sa femme Nadia Fabrizio. Et c'est vrai qu'on était programmé au Théâtre Marigny, mais avec l'événement des Gilets jaunes qui étaient sur les champs, et ben ils ont dû arrêter pendant pratiquement, je crois, 14 ou 15 représentations, mm-hmm. 14 ou 15 samedis. Donc ça a été absolument terrible pour eux. Et à partir de là, ben on va reprendre l'année prochaine. On a été déprogrammé. Ouais. Voilà.
Ça reprend l'année prochaine et nous avons le texte entre les mains, puisqu'il est paru et on va avoir l'occasion d'en parler. Le texte, le monologue de Bianca, qui a fait toute sa carrière de danseuse au Love Supreme, qui a un pimp show à Pigalle, mais elle vient de se faire virer du jour au lendemain parce qu'elle a passé la date de péremption. Et le pimp show est passé aux mains de deux frangins venus des pays de l'Est. Le pimp show s'est fait un peu ubériser, si on peut dire. Et Bianca, elle revient sur ses souvenirs, sur le quartier, sur sa vie, sur ce que le quartier est devenu aussi. Vous avez donc écrit un monologue d'une danseuse de pipe show de quoi, là, à peu près 50 ans? Quel est votre lien avec elle? Vous, Xavier Duringer, vous êtes glissé dans la peau de cette femme.
En fait, l'histoire, c'est Dominique Pitoiset, qui est un ami de longue date, m'a dit, voilà, je voudrais faire un cadeau pour ma femme, pour ses 50 ans. Et est-ce que tu ne voudrais pas lui écrire un monologue? Ce serait un cadeau formidable pour elle. Donc on s'est
rencontrés. Bien de vous avoir comme pote. C'est vous qui faites le cadeau en fait.
Ouais, c'est moi qui ai fait le cadeau.
Elle est jolie la vie.
Voilà, c'est moi qui lui ai fait le cadeau et donc il voulait une chose sur le cinéma, voilà, sur une actrice de cinéma en ce moment, sur la difficulté des femmes de 50 ans de trouver des rôles à la télé, au cinéma, voilà, sur cette thématique-là. Et j'ai transféré ça en fait sur cette danseuse de pipe show qui commence en fait dans le pipe show à 18 ans quand elle est une jeune actrice et qu'elle travaille au cours Florent et pour se faire un peu d'argent. Et je raconte en fait ces 30 ans où elle reste, où on voit finalement l'évolution de la société extérieure. C'est la même chose à l'intérieur, c'est-à-dire la fin d'un monde, mmh. un monde qui va s'écrouler. Et cette femme qui est jetée, j'allais dire, dehors carrément avec toutes ses affaires comme ça du jour au lendemain. Et elle raconte 30 ans de la vie de ce quartier, des années 80 jusqu'à aujourd'hui.
Juliette ?
Alors, Bianca a 50 ans, c'est une femme, elle appartient, elle le dit, hein, qu'elle vient du lumpen prolétariat, le mot est employé dans le monologue. Vous n'avez pas eu peur de vous faire taxer d'appropriation culturelle, puisque c'est écrit à la première personne du singulier et...
Oui, mais t'écris un monologue, donc... Si t'écris un monologue pour une femme, tu t'écris la première personne du singulier.
Donc ça vous a
Non, ça m'a pas gêné parce que j'ai sorti déjà Histoire d'homme, qui était un texte avec 56 monologues de femmes que j'avais écrit pour Judith Magre il y a quelques années. Et j'ai écrit pratiquement entre 150 et 250 monologues pour femmes. Donc forcément, c'est assez... En fait, il y a pas de problématique de la femme ou de l'homme. J'écris pour les femmes exactement comme pour les hommes. C'est-à-dire que... Quand je suis à la place d'une femme, je vais être aussi dans la violence. Je vais pas écrire sur des choses complètement féminins, doux, tranquilles, mais je vais attaquer toujours bille en tête. Aujourd'hui, le langage des femmes a beaucoup changé dans la société. C'est-à-dire que vous entendez souvent des couples qui s'engueulent. Elles parlent comme Al Pacino aujourd'hui. Va te faire foutre, casse-toi, je m'en bats les couilles. Enfin, c'est incroyable. Le langage des femmes aujourd'hui a complètement changé.
Vous connaissez Juliette
Oui, très bien. Et puis, j'avais été voir ce spectacle aussi il y a quelques années. En fait, voilà, il y a une sorte de violence comme ça de verbale, vraiment dans le monde occidental aujourd'hui, qui est très très fort, avec vraiment une violence et un engagement aujourd'hui des femmes. Mm-hmm. Et je voulais restituer ça aussi au théâtre, c'est-à-dire que cette femme, pendant 30 ans a dansé en tant que danseuse dans un pipe show, elle a des choses à dire, elle les dit avec ses mots, et ses mots sont parfois violents, dérangeants. Mais j'ai pas de problème en fait pour me mettre à la place des femmes, mais souvent dans les rapports de couple, quand j'écris par exemple pour des couples ou des scènes à deux, j'écris finalement ce qu'on me reproche, donc c'est assez facile.
Il y a un côté presque authentique de la débauche dans le Pigalle qu'elle décrit, votre héroïne Bianca, parce qu'elle a connu la période dorée, on peut dire, de Pigalle. Enfin, une débauche et un quartier crade peut avoir sa période dorée, c'est ça tout le paradoxe. Vous êtes pas un peu un réac de la débauche là dans ce...
Non, c'est pas une question de débauche, c'est qu'il y a des quartiers comme ça qui commencent à disparaître. On en parlera, je crois, tout à l'heure dans la thématique. Mais c'est vrai que les années 80, là-bas, c'est la musique, c'est un style, c'est une façon de penser. Il y avait vraiment chaque quartier. Et si on repart plus loin dans ce quartier-là, c'était les grands écrivains, les grands peintres avant. souvent. Voilà, ce sont des quartiers complètement interlopes où finalement tout le monde se croise à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et c'est là où les choses se passaient. Enfin, il y avait 3-4 endroits comme ça à Paris dans les années 80 et c'était là. Il fallait être là.
On sent que vous avez étudié le sujet, en tout cas. Et que vous avez discuté avec des femmes, des danseuses de pipe show pour pouvoir écrire et...
Et c'est très intéressant parce que souvent, justement, c'est comme la prostitution. On s'attend à un discours et généralement, c'est tout le contraire qu'on entend. Mmh. Voilà.
Et qui est transcrit notamment dans ce monologue Love Suprême, donc, qui est paru aux éditions théâtrales, en attendant de voir la pièce avec Nadia Fabrizio dans le rôle titre, bien sûr, écrit par Xavier Duringer, qui est avec nous.
Mais on peut le lire.
Oui, bien sûr.
On peut le lire, c'est le théâtre, ça se lit aussi. Ouais.
Si me vendeur, il n'aura pas vu le pipe show. Everyone's feeling pretty. It's our third in July. Though the world's full of problems, they couldn't touch us even if they tried. From the park I hear rhythms. Marley's hard on the books. Tonight there will be a party on the corner. Stevie Wonder sur France Inter, la programmation musicale de Djoubaka. Nous, on parle un peu John Coltrane avec A Love Supreme. C'est le titre de la pièce de Xavier Duringer, un monologue qui est paru aux éditions théâtrales et qui emprunte son titre à l'album le plus connu de John Coltrane. D'ailleurs, pourquoi faire planer l'ombre de Coltrane à Pigalle alors qu'on l'attend dans les caves de Saint-Germain, finalement ?
En fait, celui qui est le rabatteur sur le trottoir, qui est un métis qu'elle rencontre quand elle a 20 ans, lui dit « tu peux rentrer, regarde les filles ». Elle va rencontrer tout un monde incroyable de jeunes nanas qui arrivent de partout, de toutes les nationalités. Et elle va découvrir un monde qu'elle connaissait pas. Et c'est ce garçon, on va apprendre par la suite, qui serait l'enfant illégitime de John Coltrane avec une petite française en 1963 quand il a fait son concert à Paris. Et à partir de là, il vit en fait dans la nostalgie et dans la mélancolie forcément de son père qu'il n'a jamais croisé, jamais connu. Et il appelle son premier peep show A Love Supreme. Qu'on prononce en anglais A Love Supreme. Supreme.
Oui,
et on se demandait d'ailleurs, je racontais cette anecdote dans le... On ne sait pas en fait si Coltrane chante Allah Supreme ou Love Supreme. C'est-à-dire que, et il y a plein de gens, en fait, qui parlent de cette chose-là, parce que tous ces musiciens étaient musulmans à l'époque, et de savoir s'il s'est converti à l'islam, s'il chantait Allah Supreme ou Love Supreme. Voilà. Donc, réécouter l'album, c'est un album qui est absolument génialissime.
Il disait après Pipe Show Akbar, d'ailleurs, je crois que c'était cet indice. Xavier Duringer est avec nous.
Là, on est après Pipe Show Akbar.
Il y a Eric Zemmour qui vient de jeter son disque violemment contre le mur.
Alex, pour entendre Xavier Duringer.
Vous l'avez entendu parler, c'est Guillaume Meurice. Vous l'avez entendu rire, c'est Juliette Arnaud. Et Rukyata Ouédraogo est également avec nous.
J'ai commencé la politique, nous étions riches, on l'a fini. pauvre.
Le journal de presque 17h17.
Heureusement, il y a la planque à Patrick.
Et on commence par les titres.
Emmanuel Macron dénonce les dérives d'un capitalisme fou.
Source non officielle, on dirait qu'il peut succéder à Jean-Luc Mélenchon à la tête de la France insoumise.
À son procès, Patrick Balkany a dit regretter avoir voulu toujours faire plaisir.
Et oui, la même défense que Guy Georges, exactement la même.
Des brèves.
Oui, parce que mon problème avec les brèves, c'est toujours vouloir faire plaisir à l'auditeur.
Récidiviste.
Allez, commençons par une info terrible, lue sur BFM People.
Oui, à cause de contraintes d'agenda, Brigitte Macron n'a pas pu rencontrer Jérém Star.
Ah merde. Quoi, ça se joue l'avenir de la France à rien.
Venons-en au fameux procès de Patrick Balkany.
Oui, l'homme qui a cette manie de toujours faire plaisir aux humoristes.
Oui, ça, c'est vrai. Il a déclaré, quand un homme politique s'arrête, il meurt.
Oui, et parfois même, il meurt avant de s'arrêter. Jurisprudence Bouteflika.
À droite, pour la présidence de Les Républicains, Christian Estrosi veut des élections après les municipales et Sarkozy comme juge de paix.
Sarkozy comme juge, le gars est fort. D'être accusé, il finit juge, c'est brillant.
Passons à un moment qu'on qualifiera de suspendu.
Moment suspendu sur le plateau, je pense que vous adorez cette émission de Pascal Pro.
Oui, lundi, après un duplex au Sable d'Olonne, où avait lieu une marche blanche en hommage aux trois sauveteurs en mer qui ont perdu la vie.
Eh bien, les deux chroniqueurs du jour, enfin deux des chroniqueurs du jour, Jacques Séguéla et Bernard Debré, n'ont pu s'empêcher de partager quelques considérations de spécialistes.
Merci Jean-Michel Decazes, vous êtes avec Olivier Gangloff, en direct donc du Remblai des Sables d'Olonne. Merci à tous.
On marche matin. Tous avec eux.
Merci Thierry Ferret.
C'est fou la mer, elle est devenue calme. Terrible, à trois jours près ça n'aurait pas eu lieu.
Oui, c'est justement parce qu'elle n'était pas calme que ça a eu lieu.
Thierry Ferret.
Même Pascal Pro avait l'air gêné.
C'est dire l'ampleur du désastre.
On conseille la vidéo. Regardez la vidéo.
International à présent, Donald Trump a menacé le vin français de taxation supplémentaire.
Et oui, si ça continue, il va proposer de construire un mur autour des vignobles bordelais.
Sur sa lancée, il a fait une autre boulette.
Oui, Donald Trump a dévoilé à son insu une partie de son accord avec le Mexique en brandissant devant la presse un document confidentiel.
Sans se rendre compte qu'il était lisible en filigrane grâce aux rayons du soleil.
Oui, c'est vrai. Il vient de la télé-réalité et parfois on a l'impression qu'il pourrait y retourner comme candidat.
Revenons en France.
Oui, le Sénat a voté contre l'avis du gouvernement un allongement de 2 semaines du délai légal pour recourir à une IVG.
Mais hier, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, à la demande de la droite, a fait revoter le texte pour supprimer la mesure.
Et oui, maintenant elle commence à faire avorter les textes sur l'avortement. On va plus s'en sortir.
En sport, Tony Parker a pris sa retraite en expliquant que ça ne l'intéresse pas de jouer au basket si c'est pas pour gagner un titre.
Et au moins s'il fait de la politique, on est sûr qu'il ne rejoindra pas Nicolas Dupont-Aignan.
Coupe du monde féminine de football. Oui. Les États-Unis ont atomisé la Thaïlande 13-0.
Et ouais, c'est marrant parce que normalement, c'est les Français qui vont en Thaïlande pour baiser. Et ici, c'est tout l'inverse qui s'est produit.
Et c'est même pas les brèves encore.
C'est maintenant. En Argentine, un homme condamné a indemnisé son ex-femme pour les tâches ménagères qu'elle avait faites. Ouais, pendant tout. Ouais, c'est bien joué. Et si ça fait jurisprudence, Pénélope Fillon pourrait enfin gagner de l'argent légalement.
Allez, une dernière.
Et la dernière, l'Université catholique de Lille vise à l'autosuffisance énergétique à l'horizon 2035 grâce à l'énergie solaire. À Lille, de l'énergie solaire. LOL.
Merci Alex.
Mais de rien.
L'auteur de théâtre et metteur en scène Xavier Duringer est en notre compagnie jusqu'à 18h et abordons ce tout premier sujet sur le New York Times qui vient de virer le dessin de presse de sa version internationale. Pour la version américaine du journal, c'était déjà fait depuis un moment. Le déclencheur, c'est un dessin pas très heureux, c'est vrai, du caricaturiste Antonio qui a représenté Netanyahou en chien tenu en laisse par un Donald Trump aveugle portant une kippa. Le tollé sur les réseaux sociaux a sans doute eu raison du dernier espace de subversion dans ce journal. Le dessin quotidien. Il y a 20 ans, la purge avait déjà eu lieu à la télé, on peut dire. Hein. On voit le résultat aujourd'hui. Par exemple, on pourrait plus entendre un mec comme Choron en direct le soir à la télé.
On ne peut parler que de ce qu'on connaît. Donc ce soir, on parle de l'armée de métier. Si on parle de pain, on parle avec des boulangers.
Voilà, très bien.
Donc ce soir, la guerre doit être faite par des gens de métier. Et ça rassure tout le monde de savoir que le gars qui va te flinguer connaît son métier.
On va peut-être pas attaquer tout de suite dans le vif du sujet.
C'est juste un truc. Il n'y a rien de plus terrible que de se faire couper la tête par un con, disons, qui va te couper la tête avec un couteau à pain.
Le professeur Choron, dans Ciel Montmardi, l'émission de Christophe de Chavannes, et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le CSA serait déjà en panique. Alors, à propos du New York Times, donc, il vient complètement d'expurger le dessin de presse de ses pages dans la version internationale. La version américaine, c'était déjà le cas. Donc, il y a un dessinateur aussi comme Chapat qui dessinait dedans, c'est terminé. Est-ce que c'est révélateur de notre époque? Ou c'est un épiphénomène ou vous palpez quelque chose de plus grand?
Bah, c'est pas de le palper, c'est qu'on le voit partout. C'est-à-dire que ce soit dans les émissions de télé, que ce soit aujourd'hui même nos humoristes. Mm-hmm. C'est-à-dire que on ne peut plus dire ce qu'on pense, même si Mademoiselle Gardin va faire une annonce comme ça. Mais bon, si on regarde les spectacles de Desproges, je pense qu'aujourd'hui Desproges ne pourrait plus faire. C'est spectacle, c'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose où, mais ça a commencé à la fin des années 90, cette chose-là. Alors, c'est la fin d'une expression libre, c'est-à-dire qu'on est dans un pays normalement libertaire, enfin on est dans un pays où on a une langue crue, verte, rabelaisienne, où c'est véritablement en fait notre culture depuis très très longtemps, et cette chose-là aujourd'hui
mais
est
la
de
scène,
plus en plus difficile.
La scène, elle permet encore ça, après, évidemment si une partie du spectacle est retweetée, va sur les réseaux sociaux, évidemment c'est pas pareil, mais des proches, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et sur les scènes, il y a des humoristes qui vont encore assez loin.
Oui, mais avec la peur. Avec la peur de pouvoir
on
dire.
On en connaît qu'on n'a pas peur, hein.
Oui, oui, non, mais.
Blanche n'a pas peur, Emmanuel Barré n'a pas peur.
Gaspard Proust.
Non, je parle de ça, mais je le vois même au niveau du cinéma ou même au niveau d'un téléfilm, au niveau de ça. Il y a un poids sur la lecture, par exemple, d'un scénario. De pas parler comme ça, de pas montrer ça, de pas faire ci,
un poids financier peut-être aussi d'essayer de
oui
fédérer.
Mais de tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est devenu véritablement financier, c'est très très difficile de faire de l'art avec une industrie qui est totalement sur vos côtes. Alors c'est vrai que aujourd'hui au théâtre sur des plateaux indépendants on peut encore dire des choses. Moi j'ai choisi par exemple le roman pour pouvoir m'exprimer complètement librement parce que si vous voulez au niveau du cinéma ou de la télé on a toujours un poids de responsabilité aussi et puis des gens qui vous disent vous ne pouvez pas écrire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut pas de nudité, il faut pas de violence, il faut pas, voilà, les sujets sociaux, c'est touchy, c'est assez compliqué, hein, aujourd'hui.
Mais vous vous sentez dans un étau, Alex?
Mais c'est en ça que le New York Times est en tort, lui, d'avoir publié ce dessin, parce que là, vous vous dites justement qu'il y a des gens qui sont trop prudents. Ici, il l'a pas été assez, et de priver, tous les dessinateurs, justement.
Non, mais c'est la fin d'une expression aussi de liberté. Hein. On le voyait avec Charlie Hebdo aussi, par rapport à ça, et le courage qu'ils avaient sur les caricatures, ce qui s'est passé aussi aux Pays-Bas, avec l'assassinat de certains dessinateurs. Enfin, on s'aperçoit qu'aujourd'hui... bon, la caricature, c'est vrai que dans caricaturer Trump, c'est difficile, parce que déjà, les traits sont déjà tellement épais qu'on ne peut pas le caricaturer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive finalement où c'est même plus la peine de faire de la caricature, parce que
justement,
ça va tellement loin.
Dans l'Amérique de Trump, dans l'Italie de Salvini, en Hongrie de Viktor Orban, on a tellement besoin de cette caricature qui est le poumon de la démocratie. On va conclure avec Juliette.
Ou peut-être l'inverse. Spike Lee, par exemple, qui a une haine pour Trump qui défie l'entendement, il refuse ne serait-ce que de dire son nom, il l'appelle Agent Orange. Quoi qu'il arrive. Là, par exemple, il y a la deuxième saison de Nola Darling n'en fait qu'à sa tête sur Netflix. Il y a 10 secondes sur Trump. Jamais le mot Trump n'est dit. C'est aussi une solution. Carrément, je refuse d'en parler.
Ils repasseront par la fenêtre, les caricaturistes, c'est certain. 17h31 sur France Inter, Xavier Duringer. À nos côtés, il y a Rukyata Ouédraogo.
C'est moi. Aujourd'hui, une ancienne camarade de classe perdue de vue depuis oh là là, m'a appelée. Ruki, ma copine, ça fait 2 jours, hein. Dis-moi, je t'appelle parce que toi qui vis en France là, tu peux pas me trouver une petite fille dans un village pour faire mon ménage? Quoi? Mais je vis en France, comment veux-tu que je t'envoie une fille du village? Mais justement, ma copine, c'est une enfant d'un village français que je veux. Non, parce que les filles ici là, elles ne valent rien du tout. Mais pourquoi tu veux une gamine? Une adulte a plus d'expérience et une plus grande capacité de travail qu'une gamine, non? Eh, pardon, faut pas me fatiguer avec les adultes, là. Hein. Elles ne valent rien du tout. Elles discutent tes ordres. Elles piquent ta monnaie. Il y en a même qui sont syndiquées. Tu te rends compte? Mais du coup, il faut les payer. Mais si les gens travaillent, c'est pour qu'on les paye, non? Ouais, ma copine, mais attention, hein, il y a payé et puis payé. Attends, une gamine du village, par exemple, elle vient en ville travailler pour accumuler de quoi payer sa dot le jour de son mariage, on est d'accord? Bah, je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon, c'est vrai que ça se passe souvent comme ça. Mais si un mois sur deux, au lieu de la payer, tu la frappes correctement, le mois suivant, elle devra toujours travailler pour payer sa dot. Donc, elle n'aura pas le choix et restera chez toi pour travailler. Tandis qu'une adulte, si tu la bats, elle s'enfuit. Tu n'as plus de bonne. Ah, ce n'est pas du tout intéressant. J'en reste sans voix. Hein? Tu as mal à la gorge. Pardon, faut prendre du miel avec du citron. Donc, je disais, la fillette que tu vas m'envoyer là, je veux que ce soit une vraie villageoise, une qui n'a jamais vu le soleil. Tu vois sa peau là, le soleil ne l'a jamais frappée. Tu vois une fille qui vient de la France profonde, arrachée à sa famille, seule, perdue. Je veux qu'elle soit complètement dépendante de moi, d'accord? Quoi? Ah bah oui, parce que les filles de la ville, elles ne s'intéressent qu'au basket, à la mode, aux nouveaux téléphones. Elles n'ont pas le goût du travail bien fait. Non mais j'hallucine. Hé, ma copine, tu as des visions maintenant? Peut-être qu'on t'a fait du gris-gris, hein. Et je serai toi. J'irai voir un marabout pour savoir qui m'a jeté un sort. Bon, donc, je disais, les filles des villes là, il y en a qui ont fait des études. Alors, celles-là, c'est les pires. Elles revendiquent leurs droits. Leurs droits. Non mais attends, tu t'imagines? C'est dingue, non? Bon bah, ça suffit maintenant. D'abord, le travail des enfants, c'est nul. C'est une forme d'esclavage. C'est dégueulasse. Esclavage, mais n'importe quoi. C'est une forme de rationalité, ça n'a rien à voir. J'ai appris ça à l'université pendant mon master d'économie. Baisser le coût de production pour un employeur, c'est la base de la productivité. Ah bon? Et si c'était tes gamins à toi qui devaient travailler chez une bourgeoise, faire le ménage tous les jours? Oh là là, madame a des principes, hein? Madame est droit de l'enfantiste. Ok, bon, tu veux pas me rendre service, ce n'est pas grave. Je vais trouver quelqu'un qui pourrait me trouver une petite au revoir la France qui va venir faire mon ménage ici. Hey, une bonne blanche dans mon quartier ici. Ça va être chic, hein? Mais ici, les gens n'envoient pas les filles à la ville pour faire bonne, encore moins dans les villes africaines. Eh ben, c'est pour ça que vous, vous êtes en plein déclin économique, vous les Français, là, avec des principes comme ça. Vous n'avez aucun avenir au 21e siècle. Elle m'a raccroché au nez. Bon, j'étais contente de ne plus l'entendre. Mais elle m'a rappelé une chose. En cette journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, on parle beaucoup des enfants dans les mines, dans les industries textiles et autres. Et il faut en parler parce que c'est dégueulasse. Mais une forme trop négligée du travail des enfants est le travail domestique. Bon, c'est moins spectaculaire, mais c'est beaucoup plus répandu chez moi. Et les mentalités doivent absolument évoluer pour changer ça.
Merci, Rukyata Ouedraogo. Alors moi, j'ai moins de scrupules, je peux en conseiller quelques-unes. Parce que les enfants, ils sont plus petits, ils sont plus près du sol. Pour nettoyer, c'est plus pratique.
J'aime ça.
Bah, évidemment, oui, Rukyata, enfin. Rukyata Ouedraogo, merci. Et votre spectacle, Je demande la route, vous le jouez ce vendredi aux arènes de l'UTS à Paris à 21h30. Eh oui. We'll be right back. Dreams chante l'épée tandis que Guillaume Meurice se racle la gorge avec le micro. Et que nous recevons Xavier Duringer. Xavier Duringer qui publie le texte de sa pièce A Love Supreme aux éditions théâtrales, pièce qui va se rejouer au Théâtre Marigny car vous avez été malheureusement annulé à cause des gilets jaunes qui manifestaient non loin du Théâtre Marigny.
Salaud pauvre.
Xavier Duringer, je le disais à côté de vous,
oui.
Guillaume Meurice.
Oui, on est mercredi, le jour des enfants. Alors, je sais qu'autour de la table, tout le monde n'aime pas les enfants. Hein, Alex, par exemple, il dit qu'il en a pas. Alors que bon, quand je passe dans les mêmes salles que lui quelques temps après, il n'est pas rare que j'y croise un petit garçon aux boucles blondes qui marmonne « Ivre virgule !» hein. Sa maman avec un petit t-shirt rend la pension alimentaire. Mais bon, c'est votre vie privée. Je vais vous parler d'éducation plutôt aujourd'hui. Alors, sujet vaste, hein, qui va de Françoise Dolto à Véronique Courgeot, en passant par Michel Fourniret et Dora l'Exploratrice. Hein, c'est très très vaste. Et la question est, comment éduquer les enfants pour un monde plus juste et plus vivable? Eh bien, le jardin d'acclimatation de Paris a eu une très bonne idée en confiant cette question à l'entreprise Porsche. Ça, c'est formidable. Bonne idée, hein, qui n'est pas sans rappeler celle de confier un club de relaxation à Samina Seri, avec une animation qui s'appelle La Fabrique à rêves, où plein d'enfants viennent s'épanouir dans l'univers de Porsche, des circuits de bagnoles, des endroits où on peut prendre des photos au volant d'une Porsche, plein d'enfants emmenés par exemple par leur grand-mère.
Et ma fille, hier soir, qui m'a dit « Maman, au jardin d'acclimatation, il y a un truc super pour les enfants.
Ouais.
Le petit pourra conduire des petites Porsches. »
Est-ce que si ça avait été conduire une Fuego
La Porsche, c'est plus classe, hein. Donc non, mais une petite Porsche, oui, c'est bien, déjà, il va s'habituer. Peut-être que plus tard, comme ça, il en achètera une.
Ah bah, bien évidemment, ah bah, je dirais que même, c'est le but, hein, c'est le but, habituer tout petit l'enfant à la Porsche. Ça, c'est mon premier conseil pédago du jour. C'est important. Si on regarde autour de la table, qui roule en Porsche? Vous avez eu des parents de merde, excusez-moi, vous avez été très très mal élevé.
J'ai pas le permis, moi.
D'accord. Putain, heureusement qu'il y a des parents responsables, notamment cette maman qui a bien élevé son enfant.
Il est passionné de Porsche, il a 5 ans, voilà.
Mais alors comment on peut être passionné de Porsche à 5 ans?
Parce qu'il a un environnement familial, amical, qui en fait a des Porsches, et il va dedans et il trouve que c'est une très belle voiture.
Il a beaucoup de Porsche autour de lui.
Voilà, il a la chance d'en avoir beaucoup autour de lui. Donc je lui dis que s'il faisait HEC comme sa maman, il aurait une Porsche.
Et voilà, si tu fais HEC comme maman, t'auras une Porsche. Ça, c'est de l'éducation. Hein, voilà comment on incite un enfant. Si tu rates, t'auras juste une BMW comme un gros nul. Loser! Voilà, là on éduque. C'est vrai qu'il faut aussi la chance d'avoir des parents pédagogues, n'est-ce pas mon enfant?
Mon père, il est à Porsche.
Ah, il a une Porsche?
Il a 3 voitures.
3 Porsche?
GT2 RS, Macan et une ancienne Porsche. Il faut venir chez Porsche pour essayer.
Ben oui, voilà, ben restez pas comme des glands là. Oh là là, vous êtes là avec vos a priori, essayez une Porsche. On peut pas dire j'aime pas si on n'a pas goûté, moi je dirais. Hein, Porsche, ils tentent des choses. Ils ont truqué leur moteur diesel là, ils se sont fait gauler, ils doivent plus de 500 millions d'euros. Mais au moins je dirais ils essayent, les mecs c'est du panache. C'est les Cyrano de la particule fine, bordel. Alors arrêtez de bouder et retrouvez votre regard d'enfant.
Eh ben, j'ai fait la voiture noire, c'était ma préférée.
La voiture noire?
Oui.
Parce que quand tu seras grande, tu voudras une Porsche?
Oui.
Une comment?
Une noire.
Une noire, la même que tu viens de conduire?
Oui.
Tu préfères pas les Vélib?
Non.
Ah, je tente des trucs quand même. Ah, j'ai pas osé lui demander pour le pass Navigo. Parce que je vous rappelle que la ministre des Transports a demandé sur toutes les pubs pour les voitures d'avoir un petit encouragement à prendre les transports en commun. Ah, ça c'est quand même sympa. Et tous les ministres devront également porter un badge avec marqué « On vous prend bien pour des gros cons ». Ah, ça c'est sympa, pour un monde un peu moins hypocrite. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, le sujet donc c'est Porsche. Vous voulez une Porsche les enfants?
Oui.
Pourquoi?
Parce que ça roule bien, elle est belle.
Et alors qu'est-ce que vous allez faire pour avoir une Porsche plus tard?
Avoir de l'argent.
Et ouais, bah alors comment vous allez faire pour ça?
On est riche.
Eh ben voilà, ouais, c'est malin, il suffit d'être riche. Les enfants sont formidables et ils sont malins, ils ont tout pigé. Pourquoi vous croyez que les riches dirigent le monde? Eh ben parce qu'ils sont malins. Et voilà, c'est pas vous qui dirigez le monde. Même si évidemment, il est important aussi pour les enfants de valoriser la valeur travail. Pour avoir de l'argent, il faut aussi
travailler.
Ouais, tu veux travailler dans quoi?
À la banque.
C'est vrai, t'as envie d'être banquier?
Oui.
Ouais, c'est bien d'avoir des rêves de gosse. Moi, je trouve banquier, c'est vrai que ça fait rêver. Hein, ne jugez pas les rêves d'enfants, s'il vous plaît. Hein, on a tous eu, voilà, des rêves d'enfants. Moi, je voulais être gestionnaire de portefeuille. Voilà, c'est vrai, à 4 ans, ben, je m'étais constitué un fichier client. Voilà, je démarchais en B2C. Bon, ben voilà, je finis en collecte de texte. Là, j'ai raté ma vie, mais des fois, on échoue. Le tout, c'est d'avoir un objectif. Et cet objectif, ça peut être bien sûr une Porsche. Pourquoi?
parce que ça va vite.
Ça va jusqu'à quelle vitesse?
À 300.
Ah ouais? Et c'est autorisé d'aller jusqu'à 300?
Bah ouais.
Ah bon?
Ouais, mon papa il conduit comme un malade.
Comme un malade? Et ça te fait pas peur?
Ouais, dis, allez papa, va vite!
Allez, allez papa, va vite! Allez James Dean, hein, c'est tout droit, on est tous avec toi. Allez, roulez jeunesse, à fond dans l'impasse économique et écologique.
Guillaume Meurice, merci. Vous avez même pas ramené un petit porte-clés, quelque chose?
Ah, un petit, je crois que vous allez dire un petit enfant.
Ah bah oui, parce qu'après on pourra l'envoyer en Afrique, à Ouaga, pour nettoyer les sols de
et
la
et puis Porsche, c'est sympa pour rouler dans Paris, c'est sympa Porsche.
Ouais, c'est vrai.
Moi je trouve que c'est vraiment... Voilà, c'est, il faut les encourager.
Ouais, c'est indispensable.
Xavier Duringer avec nous. Abordons cet autre thème car selon l'Express, l'État dépense pour la culture en moyenne 139 euros par habitant en Île-de-France contre 15 euros par habitant partout ailleurs en France. La fameuse fracture entre la région parisienne et ce qu'on appelle depuis plusieurs mois les territoires, avec 15 euros de subvention par tête de pipe, ça se passe comment la culture en région?
Mes très chers amis, le musée du Charnois, unique musée au monde de porcelaine animalière et véritable fer de lance de la politique culturelle de notre ville, va bientôt s'installer. Devinez où, je vous le demande? Eh bien, dans votre maison de retraite. Ces murs, qui vous ont protégé des intempéries de la vie pendant de longues années, doivent maintenant protéger d'autres monuments en péril. Vous êtes la pierre angulaire de ce projet, car c'est sans vous que les plus grandes choses pourront s'accomplir.
Joséphine Demeau, dans Vilaine, le film de Jean-Patrick Bénès et Alain Mauduit. Est-ce que pour vous, Xavier Duringer, qui avez monté de nombreuses pièces, les faire jouer en région, c'est plus difficile qu'à Paris?
Non, pas du tout. Mais nous, on était, ma compagnie, pourtant on est parisien, mais on était implantés en Limousin. C'est-à-dire que toutes nos créations, nos accueils en résidence, c'était en Limousin, dans la région limousine, où on faisait nos créations d'abord à Limoges et dans la région limousine, puis après on revenait sur Paris ou un peu partout.
Et vous receviez des subventions pour ça?
Bien sûr, mais c'est compliqué. Il y a eu, on va pas faire un cours d'histoire là-dessus, mais il y avait une véritable décentralisation culturelle qui est morte aujourd'hui, pratiquement, enfin... Et puis cette nouvelle décentralisation qu'il y a eu sous l'ère Mitterrand aussi, où c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus d'actions dans les régions. Et à partir du moment où on a regroupé finalement les financements des grands ensembles sur le territoire et du théâtre et de la culture tout ensemble, c'est-à-dire mettre les musées, les châteaux, tout ça en fait dans les, je sais plus, dans les 3%, à partir de là, ça s'est déglingué. Mais c'est encore la même chose, c'est-à-dire qu'il y a énormément de compagnies qui sont sur Paris, parce que c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup plus de subventions en Île-de-France. Mais maintenant, il y a très très peu de compagnies finalement qui ont des subventions qui sont reconduites, hein, c'est-à-dire que c'est du projet par projet par projet. Voilà.
Y a quelque chose. Parce que là, la fracture semble quand même assez impressionnante.
Mais la fracture, elle a lieu partout. Vous avez tous les centres culturels à l'étranger ferment les uns après les autres. Ça, c'est plutôt sous l'ère Chirac-Sarko, où l'AFA, par exemple, qui envoyait énormément de spectacles à l'étranger, a fermé. Les centres culturels à l'étranger aussi. Enfin voilà, il y a une politique culturelle qui aurait besoin en fait de s'épanouir en région.
Moi, c'est un fait politique. Hein, il pourrait mieux répartir l'argent.
Je dis à tous les jeunes parfois dans les stages, il n'y a pas que dans les théâtres qu'on fait du théâtre. C'est-à-dire prenez les endroits, on peut faire du théâtre dans plein d'endroits. Moi, j'ai vu des spectacles à moi en Allemagne, par exemple, qui étaient faits dans les gares. J'ai vu des choses faites en appartement à Cuba. J'ai vu des choses dans des granges. Aujourd'hui, on a des néons, c'est-à-dire pour faire de la lumière, on a des néons de couleur. En plus, avec les portables, on peut changer la couleur de ces néons rien qu'avec son portable. On peut faire des spectacles dans les bois, on peut faire des happenings à peu près partout, on peut jouer dans les bars. Moi, j'ai commencé en faisant du théâtre dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, parce qu'il y avait un plateau, il y avait du son et il y avait de la lumière. Et j'allais toucher aussi un public aussi particulier, parce que le théâtre, c'est bien gentil à Paris, mais pour quel public on fait du théâtre? Moi, je veux aller chercher un public qui n'a pas forcément l'habitude du théâtre, parce que jouer pour des gens qui connaissent les mêmes choses que vous, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, je suis pour, en fait, une vraie décentralisation des compagnies et d'aller jouer un peu partout, à la campagne. Quand vous avez une petite compagnie, la petite compagnie, elle cherche tout de suite une petite salle à Paris pour jouer, pour avoir la presse et tout ça. Elle va avoir quoi? 10, 15 personnes, 20 personnes? Alors qu'elle irait jouer dans n'importe quelle ville de province, elle aurait 200 personnes dans la salle des fêtes qui viendraient. Ce serait un kiff pour elle monumental. Et voilà, il y a des tournées qu'on organisait nous finalement dans toutes les petites villes, parce que dans toutes les petites villes il y a un centre culturel, il y a une MJC, il y a un endroit, un bar et tout ça, et on peut faire des tournées extraordinaires.
Et les EHPAD, hein, comme on l'a entendu tout à l'heure.
Mais c'est vrai que c'est un gros problème.
C'est la une de l'Express qui est titre culture, un scandale français, et qui explique notamment, il y a un rédacteur en chef du Monde qui a écrit une tribune en expliquant que la droite et la gauche généralement s'écharpaient sur tous les sujets, mais communient ensemble à l'opéra, dans les théâtres et les festivals, et qu'il y a donc une sorte de...
Oui, parce que c'est pas politique, l'opéra et les grands ensembles musicaux, c'est pas politique.
Mais donc que tout ça est centralisé très fort à Paris.
La danse, même si c'est un problème aujourd'hui pour les circassiens et pour les danseurs et tout ça, parce qu'en fait, quand vous regardez que ce soit le cirque ou que ce soit la danse, aujourd'hui, il y a très peu d'argent en fait pour énormément d'artistes, et il faut trouver des nouvelles solutions, créées autrement aujourd'hui. Mmh. Et il y a des jeunes qui arrivent très très bien. Mais il faut pas attendre les subventions dès le premier ou le deuxième spectacle. Mmh. Il faut faire, il faut dire, il faut écrire, il faut se montrer, il faut saltimbanque, sauter sur un banc, parler, haranguer. Voilà, c'est cette chose-là qu'il faut faire.
Ou faire une chronique avec Juliette Arnault sur la littérature.
Monter sur la chaise.
Au hasard.
C'était bien. C'était vraiment bien. Xavier Duringer, avec la pièce Love Supreme, vous donnez la voix à une femme, une pas muette, mais invisible, puisqu'elle a 50 ans et qu'elle a dansé toute sa vie dans un peep show à Pigalle. Parfois, les invisibles ont donné de la voix, mais l'histoire, avec un grand H, est parfois aussi dure de la feuille qu'un missile balistique. C'est une image. La grande histoire, donc, elle nous arrive, tant bien que mal, même s'il paraît qu'elle est écrite par les vainqueurs, parce que il y a des voix alternatives qui s'élèvent pour dire « Ah bah non, pardon, mais ça s'est pas passé de la sorte, voire pas du tout. » Et puis, il y a les témoignages qui sont quasi des bouteilles à la mer, alors ils galère pour venir jusqu'à nous. Sauf qu'à notre époque, je recommande de ne pas mettre de bouteilles à la mer, parce que sinon ça fait un océan de plastique. Bref, cette métaphore est toute pourrie, j'y mets un terme. Ce que je veux dire, c'est que le bouquin du jour, c'est une bouteille à la mer, et je l'ai dans les mains, et vraiment, on est chanceux de l'avoir. C'est un récit, donc c'est une histoire vraie. Je vais faire en sorte donc d'être précise en répondant à trois questions. Où, qui, pourquoi, où. Il a été écrit dans les îles Solovki, à l'est de la Finlande, dans la mer Blanche. Là, il y avait un camp de travail, qui était en gros les camps de travail précurseurs au goulag, aux fins d'enfermer les éléments socialement dangereux. C'est vaste, hein, socialement dangereux, ça veut dire qu'on pouvait y mettre vraiment beaucoup de monde. Ces camps n'ont pas attendu Staline au pouvoir pour exister. Là, on est en 1931. Qui l'écrit? Eh bien, c'est quelqu'un qui, comme Solzhenitsyn, mais bien avant lui, a été enfermé parce que socialement dangereuse, sauf que c'est une femme, elle s'appelle Evgenia Markon. Elle est enfermée comme lui, sauf que elle ne s'en est pas sortie des camps. Comme lui, elle a écrit, mais elle ne s'est jamais su publier. En fait, quelques mois avant d'être fusillée dans ces camps, en 1931, elle a écrit sa vie. Il est bref, ce livre, même pour une vie de 100 ans, c'est qu'elle n'a pas eu franchement le temps pour le faire, ni même le papier. Pourquoi, enfin? Parce que Evgenia, elle a toujours eu comme passion la vérité. Depuis qu'elle est petite, je la cite, « comme ce serait bien que nous, humains, soyons transparents comme en verre ». À 29 ans, enfermée dans des conditions terribles, elle persiste. À la fin du livre, elle dit « j'écris parce que je n'ai plus rien à perdre. Voilà pourquoi je suis sincère ». Mais alors, qu'est-ce qu'elle foutait, Evgenia, au goulag? Est-ce que c'était une Russe blanche? Est-ce qu'elle était tsariste? Eh ben non. Bien au contraire, Evgenia Markon, issue d'une famille plutôt intello, nourrit une véritable passion amoureuse pour l'idée de la révolution. Alors elle s'enflamme pour celle de 1917. En 1917, elle a 15 ans et direct, elle file dans la rue. Sauf que très vite, elle estime que cette révolution de 1917, bah, c'est une trahison. Et quand il y a la révolte des marins de Kronstadt, qui était un ex-foyer de la révolution d'octobre, contre la dictature des commissaires bolcheviques. Elle est achevée d'être convaincue. Elle sera donc révoltée contre les bolcheviques, Evgenia. Révoltée, c'est le titre du bouquin. Et toi, lectrice, lecteur, tu vas embrasser sa révolte, poignée que tu vas être par sa sincérité toute crue, mais aussi par son sens de l'ellipse. Quand par exemple, en deux lignes, pas une de plus, elle explique que ce qu'elle a en commun avec Anna Karénine, c'est qu'un train, s'il ne l'a pas tuée, lui a pris l'usage normal de ses jambes. Ça dure deux lignes, où elle explique qu'en gros, elle n'a plus de guibole. Tu ouvres les yeux de Gobi quand, une fois que son poète et Anna Ardemec est en tôle, elle s'estime libre de faire ce qu'elle veut vraiment faire, et c'est devenir une voyouse. Elle veut intégrer la voyoucratie parce qu'elle pense savent qu'il n'y a que eux qui pourront lutter contre le pouvoir bolchevique. Et ce n'est pas une déclaration théorique, hein. Elle va vraiment couper les ponts avec sa famille, qu'elle aime beaucoup par ailleurs, et elle va se mettre à vivre dans la rue. Et elle apprend à voler, tout ça avec ses jambes handicapées, hein, bien sûr. Elle réfléchit même à créer un comité des malfrats pour libérer tous les prisonniers, ceux de droit commun et les prisonniers politiques. Bien avant les beatniks, elle prendra la route dans les campagnes, parce qu'elle pense que seuls les paysans peuvent faire tomber le pouvoir bolchevique. Et elle, l'ex-conférencière anti-religieuse, deviendra voyante pour ne pas crever totalement de faim. Et tout ça en 29 petites années brûlantes, rassemblées en moins de 100 pages. C'est Albert Algou qui l'avait conseillé à Charline. Je l'ai lu. Vraiment, je vous conseille de faire la même chose. Merci, bisous, merci.
Xavier Duringer ?
Il y a Marx qui disait que, de toute façon, ce sont les voyous qui ont fait avancer la science. C'est-à-dire que la science a protégé les biens de chacun pour empêcher les voleurs, en fait, de prendre. On a créé des serrures, on a créé des microscopes pour retrouver les empreintes, et que finalement l'avancée de la science a eu lieu grâce à la voyoucratie. Donc en fait, elle en était un des fleurons.
Rappelez-nous les références du livre qu'on peut trouver en poche.
Hein. Elle s'appelle Evgenia Markone. Le bouquin s'appelle Révolté, et donc c'est pas cher du tout puisque chez Point.
Merci Juliette Arnaud et merci Albert Algou hein, qui nous a chaudement recommandé ce livre qui est vraiment très 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 bien, on vous le conseille. Xavier Duringer nous parle d'un texte aussi et justement on voulait aborder en dernier sujet peut-être la gentrification de Pigalle. Il y a un documentaire qui a été diffusé sur Arte récemment de David Dufresne intitulé Le Pigalle, une histoire populaire de Paris. Votre héroïne dans ce monologue, Bianca, elle se fait virer de son pipe-chaud du jour au lendemain, elle a 50 ans, elle a dépassé la date de péremption. C'est une métaphore du changement de quartier, du changement de société à Pigalle ?
Oui, on peut voir au travers du pipe-chaud, c'est-à-dire sur l'accélération du temps de travail, sur les pauses qui ne sont plus prises, le fait d'avoir des petits salons particuliers où il faut finir un client, tout ça c'est une évolution, c'est-à-dire que les pipe-chauds ont été tués en fait par internet de toute façon, puisque la pornographie aujourd'hui elle est très abordable pour n'importe qui.
Mais donc Pigalle, c'est le miroir de toute la société en réalité.
Oui, mais bon, ça a commencé déjà avec la fermeture des bordels, avec la loi Marthe Richard. Enfin là, je dis ça un petit peu de tête, mais après aussi la chasse à la prostitution. Et c'est vrai que on préfère ne pas avoir de prostituées dans les rues, mais que n'importe quel môme à 8 ans allume son ordinateur et peut trouver de la pornographie.
Alors pour conclure, est-ce que quand une ville se sépare, aseptise son quartier un peu crade, est-ce que c'est pas plus un problème qu'une solution ?
Est-ce que c'est pas plus un problème qu'une solution là
Est-ce qu'on n'a pas besoin dans chaque ville de son quartier crade, quoi ?
Non, mais c'est pas un quartier crade. D'abord, c'est pas des quartiers crades, c'est des quartiers. Des quartiers de vie déjà. C'est des quartiers de vie. Quel est l'endroit où vous pouvez aller à 3h du matin pour aller boire un verre ? À Paris aujourd'hui, on est une ville chez Juliette, mais ça, bon, on le sait tous.
Mais
Paris, on est une sorte de polarité comme ça du monde. D'ailleurs, partout on va dans le monde, vous entendez gens dire j'aimerais un jour aller une fois à Paris, mais aujourd'hui Paris c'est un musée. C'est-à-dire c'est incroyable comment 30 ans la vie parisienne finalement c'est complètement. Aujourd'hui à 1h du matin trouver un resto c'est compliqué de manger, à 2h du matin d'aller boire un verre c'est très compliqué. Et on était sûr que à Blanche, à Pigalle, on allait là-bas, on allait trouver des bars, on allait vivre en fait sa vie. Et il y a 500 000 personnes qui, la nuit, finalement, ne savent pas quoi foutre, quoi.
C'est terrible. On va conclure avec Xavier Duringer parce qu'on doit passer au jeu avec vous.
Excusez-moi. Auteur.
Vous allez jouer du viseur avec.
On fait un sketch avec vous.
C'est super.
On le propose à l'invité tous les jours. Il connaît pas le rôle. Vous êtes guide à Tchernobyl parce que depuis la série Tchernobyl, les gens ont envie d'aller visiter cette ville où il reste pas grand chose. Vous êtes guide, Charline, Guillaume et moi, nous sommes les visiteurs.
Alors moi je suis quoi, en jaune ?
En jaune.
Oh, c'est super beau, hein ?
Par ici le groupe Tsunami.
C'est nous. Oh, c'est vraiment magnifique. Hein.
Bah, vous trouvez ?
Oh, tellement. Je vais faire un selfie, tiens.
Vous êtes quand même à Tchernobyl.
J'adore Tchernobyl, il y a quelque chose de différent.
Bah tu m'étonnes.
Oh, ça me donne chaud toute cette radioactivité, prenez-moi en photo.
Non, mais non, on ne pose pas à poil.
Non, vous allez voir le nombre de likes sur Insta.
Ah bah enfin. Évidemment, les gens vont se jeter sur la photo de la femme à 300.
Une femme à 300, où ça? Elle est où,
Mais n'écoute pas, il fait des blagues.
Qu'est-ce qu'il y a?
Mais les Ukrainiens sont très réputés pour aimer les blagues.
Ah, c'est votre petit côté Vladimir Poutine, quoi.
Sur votre droite, le cimetière.
Ah, j'adore les cimetières. J'ai envie de m'allonger sur une tombe.
Non, 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 ça va pas bien avec vous.
Sur votre gauche, l'autre cimetière.
Bah, dis donc, ça a pas l'air d'être des champions de l'espérance de vie, par ici.
Oui, j'ai cru voir ça dans la série, ouais.
Derrière vous, le sarcophage.
Mais c'est la Russie ou c'est l'Égypte?
Oh, je vais faire une story avec Ramsès II.
C'est le sarcophage pour confiner le réacteur nucléaire.
Mais vous devriez rendre le parc plus agréable.
Oui. On n'est pas à Euro Disney, monsieur.
On pourrait faire une sorte de Fort Boyard. J'adore Passepartout.
Mais non, mais non.
Mais si, si, musique, allez. Ah, oh, voilà.
Moi,
voilà.
J'ai peur des araignées. Hein.
Ici, les araignées font 2,50 mètres.
Oh, bah, moi, je vais voir dans la centrale.
Ah, n'oublie pas la clé.
Mais non, sors.
Vous êtes sûr que vous allez bien?
Excusez-le, c'est l'excitation du jeu.
Stop! Ici, des centaines de milliers de gens sont morts.
Quoi? À cause des énigmes du père Fouras?
Xavier Duringer est en plus un excellent comédien. En plus d'être un metteur en scène, auteur de théâtre et cinéaste. Merci Xavier Duringer. Je rappelle qu'en attendant de pouvoir voir au théâtre en 2020, notamment à Marseille, mais aussi au retour au Théâtre Marigny, Love Suprême, le texte, le monologue est disponible aux éditions théâtrales. Vous pouvez l'avoir en main et le lire, car c'est aussi très agréable de le lire. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Xavier Duringer. Allez, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on dit au revoir, à demain, bien sûr.
C'est ça qu'on fait.